Bonjour, bonjour Marco, compte à rebours. Compte à rebours, comme tous les lundis. Et puis rediffusé, je crois, le samedi ou le dimanche. Enfin bref, vous écoutez la radio, vous entendrez ce compte à rebours. Ce sont des histoires, tout simplement, des contes, des légendes. Et depuis quelques jours, enfin depuis la semaine dernière, je raconte des épitaphes. Qu'est-ce que c'est que ça? En fait, j'ai acheté un livre pour un ami, parce que je pensais que ça pourrait l'intéresser, puis finalement, comme il n'est pas encore venu le chercher, j'ai commencé à le feuilleter, et voilà, et j'ai trouvé que c'était intéressant, Edgar Lee Masters, Spoon River, on peut remercier Jérémy, à qui ce livre était destiné, ne viens pas tout de suite le chercher, ça c'est un message personnel, attends que j'ai fini de raconter ces histoires. On va donc continuer sur ce chemin, mais d'abord, j'avais une petite phrase que j'ai trouvée. Je suis allé dans la région et j'ai rencontré la compagnie du Morse. Peut-être vous connaissez. Sur la porte, il y avait une phrase de Frank Zappa. Alors je me suis dit que j'allais démarrer par une musique de Frank Zappa qui, signalons-le, est natif lui aussi de Spoon River, bien sûr. Cette phrase de Frank Zappa, je m'en rappelle de tête, je ne l'ai pas noté, c'était quelque chose comme « L'esprit est comme un parachute. Il ne sert à quelque chose que quand il est ouvert. » Voilà, et musique de Frank Zappa, tout de suite dans la foulée. L'esprit ouvert, c'est tout ce que je vous souhaite. Et s'il est fermé, ça arrive, hein, des fois, eh ben, il faut se relaxer et l'ouvrir. Oui, oui, n'oubliez pas, on ouvre son esprit plusieurs fois par jour, on le décoince, on l'aère, on le laisse respirer, on le laisse prendre de la hauteur. D'ailleurs, là, c'est ce qu'on va faire. On va repartir, encore. Faire un petit tour sur les bords de la Spoon, une rivière de l'Illinois. Il y a là une belle colline plantée d'arbres où tous les habitants de la ville finissent, 6 pieds sous terre. Le point de vue peut sembler sans grandeur, peut-être, mais paradoxalement, il ne manque pas de hauteur. Eh oui, le monde vu d'outre-tombe bénéficie d'une lucidité qui nous manque beaucoup de notre vivant. Écoutez donc tous ces anciens vivants vous parler. Leur récit se rencontre, il y a le frère, la sœur, la femme, le fils, l'ami, l'ennemi. Ensemble, ils tissent une histoire avec ses héros, ses déchus, ses figures légendaires telles le juge, le patron de la conserverie, le plus fameux pochard du village, l'institutrice, la modiste et sa fille volage, la femme du pasteur et la ligue des bonnes mœurs. Eh oui, et tous repose sur la colline. Et ils vont vous parler. Edgar Lee Masters les a écoutés et en lisant les mots que sa plume a tracés maintenant, je vais faire résonner leur voix. Sarah Brown. Maurice, sèche tes larmes. Je ne suis pas là, sous ce pain. L'air printanier embaume et chuchote dans l'herbe tendre. Les étoiles scintillent, l'engoulevent chante, et toi, tu pleures. Alors que mon âme rayonne dans la lumière éternelle du nirvana. Va trouver mon mari. C'est un homme bon qui rumine nos amours coupables. Dis-lui que mon amour aussi fort pour lui que pour toi a forgé mon destin. à travers la chair, j'ai atteint l'esprit, et par l'esprit, j'ai trouvé la paix. Il n'y a pas de mariage au ciel, mais bien l'amour. Johnny Sayre, père. Jamais tu ne pourras imaginer l'angoisse qui m'a saisi à l'idée de t'avoir désobéi. J'ai senti la roue impitoyable de la machine broyer ma jambe et mordre ma chair. Tandis qu'on me transportait chez la veuve Maurice, je voyais l'école dans la vallée. Moi qui préférais grimper en douce sur les trains au lieu d'aller en classe. J'ai prié pour ne pas mourir avant d'avoir pu te demander pardon. Et puis tes larmes, tes paroles de réconfort, ta voix brisée. Ces derniers instants m'ont vraiment mis du baume au cœur. Tu as eu raison de faire graver sur ma tombe « Sauvé du mal à venir ».
What a glad thought, some wonderful morning, just to hear Gabriel's trumpet sound. When I wake up to sleep no more, rising to meet our blessed Redeemer, with a glad shout I'll leave the ground. When I wake up to sleep no more, sleep no
more. Le Marshal de la Ville. Les prohibitionnistes m'ont élu maréchal de la ville, quand la loi interdit les saloons. Parce que du temps où je buvais, je n'avais pas encore rejoint les bancs de l'église, j'avais tué un Suédois, à la Syrie, près de Maple Grove. Pour maintenir l'ordre au village, il voulait justement un homme impitoyable, sévère, droit, fort, courageux, ayant une sainte horreur des bars et des buveurs. Ils m'ont offert une canne plombée, avec laquelle j'ai frappé Jack McGuire, avant qu'il ne dégaine son arme et ne me tue. L'argent que les prohibitionnistes ont versé pour le faire pendre n'a servi à rien, car je suis apparu en rêve à l'un des 12 jurés, et je lui ai révélé la clé de toute cette histoire. On a estimé ma mort à 14 ans de prison, pas plus. Jack McGuire. Il m'aurait lynché si on ne m'avait pas secrètement transféré à la prison de Peoria. Je rentrais tranquillement chez moi, ma cruche à la main un peu éméchée, je l'avoue, car Logan, le maréchal de la ville, m'est tombé dessus. Il m'a secoué comme un fou en me traitant de chien d'ivrogne. Et quand je l'ai envoyé au diable, il m'a frappé avec son espèce de canne de la prohibition. Alors, je lui ai tiré dessus. On m'aurait pendu. Mais voilà ce qui s'est passé. Mon avocat, Kinsey Keane, voulait épingler le vieux Thomas Rhodes, coupable d'avoir ruiné la banque. Mais le juge, ami de Rhodes, voulait le voir libre. Kinsey lui a donc proposé un marché. L'abandon des charges contre Rhodes si je m'en sortais avec 14 ans de prison. Affaire conclue, j'ai purgé ma peine et appris à lire et à écrire. Harold Arnett. Je me suis appuyé contre la cheminée au bord du malaise, à force de ruminer mon échec et de contempler l'abîme. Sous la chaleur accablante de midi, au loin résonnait tristement la cloche d'une église, les pleurs d'un nourrisson, la toux agonisante de John Yarnell, cloué au lit par une mauvaise fièvre. La voix de ma femme m'a brusquement rappelé à l'ordre. « Fais un peu attention, les patates sont en train de cramer !» J'ai senti l'odeur. Un dégoût irrépressible m'a envahi. J'ai appuyé sur la détente. Noir. Lumière. Regret indicible. Tâtonnement pour retrouver la rive trop tard. Voilà comment je suis arrivé. Les poumons intacts, là où il est impossible de respirer à plein poumon. On a pourtant tous besoin d'air. À quoi bon se libérer du monde si notre âme doit rester à jamais prisonnière du destin? Margaret Fuller Slack. Si le destin l'avait voulu, je serais devenue aussi brillante que George Eliot. Regardez ma photographie par Pennyvitt. Le menton appuyé sur la main, ses beaux yeux gris, l'intensité et la profondeur du regard. Mais voilà, c'est posé à moi l'éternel dilemme. Le célibat, le mariage ou la luxure ? C'est à ce moment-là que le riche pharmacien John Slack a commencé à me faire à la cour, me promettant du temps à loisir pour enfanter mon roman. En l'épousant, j'ai mis au monde 8 enfants et perdu ainsi toute chance d'écrire. De toute façon, c'en était déjà bel et bien fini de moi quand je me suis planté l'aiguille dans la main en lavant les langes du bébé. Et que le tétanos m'a emporté, ironie du sort, mâchoire serrée. Âmes ambitieuses, vous pouvez me croire, le sexe est la malédiction de la vie. Le docteur Siegfried Eisman. Quand on m'a remis mon diplôme, je me suis juré de faire preuve de bonté, de sagesse, de courage, de dévouement, de charité chrétienne dans mon exercice de la médecine. Mais vous n'avez pas plutôt prêté serment que les gens de votre entourage, les autres médecins surtout, savent exactement ce que vous avez dans le ventre. Résultat, ils vous font manger de la vache enragée. Les pauvres sont vos uniques patients et vous comprenez trop tard qu'être médecin n'est qu'une autre façon de gagner sa vie. Quand vous devez faire preuve de charité chrétienne, assumer femme et enfant, et qu'en plus vous êtes pauvre, ça n'est trop. Voilà pourquoi j'ai fabriqué l'élixir de jouvence qui m'a valu d'être condamné comme charlatan et comme escroc par l'inflexible juge fédéral avant de croupir à la prison de Peoria. Lois Spears. Sigi le corps de Lois Spears. Née Lois Fluck, fils de Willard Fluck, épouse de Cyrus Spears, mère de Myrtle et Virgil Spears. 2 enfants aux yeux clairs et en parfaite santé. Je suis né aveugle. J'étais la plus heureuse des femmes. Épouse, mère, maîtresse de maison, attentive aux miens, faisant de mon foyer un lieu ordonné et débordant d'hospitalité, je me dirigeais dans la maison et dans le jardin avec un instinct aussi sûr que la vue, comme si j'avais des yeux au bout des doigts. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Le juge Arnett. Chers concitoyens, il est vrai que mon vieux registre des verdicts rangés pendant des années sur une étagère au-dessus de ma tête et de mon fauteuil de juge, il est vrai, dis-je, que ce registre à la bordure métallique m'a fendu le crâne en tombant, sans doute déséquilibré par le souffle de l'explosion du réservoir d'essence de la conserverie qui a carbonisé Weldy, le gros dur, et dont la ville entière a ressenti l'impact. Mais reprenons les choses dans l'ordre et étudions toute cette affaire par le menu. Mon crâne chauve a bel et bien été fendu, oui, mais voilà le plus terrible. Les feuilles du registre ont littéralement jailli autour de moi comme un jeu de cartes aux mains d'un prestidigitateur. J'ai regardé cette pluie tomber et fini par m'écrier dans un dernier souffle. Mais ce ne sont pas des feuilles que vous voyez là, ce sont les jours de 70 années qui s'envolent, un à un. Pourquoi m'infliger le supplice de ces feuilles criblées de petites notes ? Hanner Klut. Il ne cessait de me demander, en m'offrant à boire, à Peoria d'abord, puis plus tard, à Chicago, Denver, Frisco, New York, partout où j'ai vécu, comment j'en étais arrivé là, comment tout avait commencé. Alors je leur répondais, avec une robe de soie et la promesse de mariage d'un homme riche, Lucius Atherton. Mais c'était loin de la vérité. Imaginez, un gamin vole une pomme à l'étal de l'épicerie et chacun se met à le traiter de voleur. Le rédacteur en chef, le pasteur, le juge, tout le monde, voleur, 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 où qu'il aille. Si bien que personne ne veut l'embaucher. Et quand il ne peut gagner sa croûte, ça l'a volé, mais donc, il vole. C'est le regard que portent les gens sur le vol de la pomme qui fait du garçon ce qu'il est. Lucius Atherton. À l'époque où j'avais la moustache frisée, les cheveux noirs, des pantalons étroits et une épingle de diamant, j'incarnais le parfait valet de cœur et ne comptais plus les levées. Puis, mes cheveux ont grisonné. Je suis devenu la risée d'une génération de filles que je n'impressionnais plus du tout. Terminé pour moi les aventures excitantes du bourreau des cœurs dont on voulait la peau. Je devais me contenter de liaisons minables, de femmes de seconde main. Les années ont passé, et j'ai pris pension chez Meyer, où on me servait des repas vite faits, moi, triste Don Juan de campagne, négligé, édenté, mis au rebut. Une ombre majestueuse chante ici une certaine Béatrice, et je réalise que la force qu'il a portée au nu m'a fait mordre la poussière. Omer Clapp. Au moment de se quitter, sur le pas de sa porte, un Herclute refusait systématiquement de m'accorder un baiser, prétextant que nous devions d'abord nous fiancer. De retour de la patinoire ou de l'église, elle me serrait négligemment la main en guise de bonne nuit. Mais dès que mes pas s'éloignaient, je l'ai appris quand Aner est parti pour Peoria. Lucius Atherton entrait chez elle par la fenêtre ou l'amenait dans une course échevelée à la campagne, à bord de son attelage flambant neuf. Le choc m'a cloué sur place. J'ai investi tout l'argent venu de mon père dans la conserverie, dans l'espoir d'obtenir le poste de chef comptable, et j'ai tout perdu. C'est là que j'ai compris. Pour la vie, je n'étais qu'un pion. Seule la mort me donnerait le sentiment d'être un homme en me traitant enfin à l'égal des autres. Le diacre Taylor. J'étais membre de l'église et du parti de la prohibition. Pour les gens du village, je suis mort d'avoir mangé trop de melons d'eau. En fait, c'est une cirrhose du foie qui m'a tué. Tous les midis, pendant 30 ans, je me suis glissé dans l'arrière-salle de la pharmacie Traynor pour me servir une bonne rasade de la bouteille étiquetée Spiritus Frumenti. Have you dreamed of a stairway to heaven? A home just beyond the blue. Jones le violoneux. L'onde de la terre qui résonne en votre cœur vous définit. Si les gens découvrent que vous savez jouer du violon, vous voilà condamné à en jouer toute votre vie. Que voyez-vous? Un champ de trèfle ou un pré qui vous invite à flâner jusqu'à la rivière? Le vent souffle dans les blés. De deux choses l'une. Soit vous vous frottez les mains en pensant que les bœufs seront un point pour le marché, soit vous rêvez au bruissement des jupes des filles quand elles dansent à Little Grove. Aux yeux de Cooney Potter, colonne de poussière et tourbillon de feuilles annoncent une sécheresse dévastatrice. Aux miens, ils évoquent plutôt Samy le Rouquin dansant comme un diable au rythme de Touhalour. Comment vouliez-vous que je cultive, ne serait-ce que mes 20 hectares, quand le cri des corbeaux et des rouges-gorges, le grincement d'un moulin à vent, déclenchait dans ma tête un concert de cors, de bassons et de flûtes. De ma vie, Je n'ai jamais réussi à la bourrer sans qu'on m'entraîne vers quelques balles ou pique-niques. Voilà comment j'ai fini. Avec 20 hectares, un violon déglingué, un rire brisé, une moisson de souvenirs et pas le plus petit regret.
Step I'll climb till his hand touches mine. Then I'll rest at the top of the stairs.
Les musiques que vous avez entendues étaient, là, en l'occurrence, la dernière, Stanley Brothers. Alors, soit il y a Stanley Brothers, c'est des frères, soit c'est Ralph Stanley, c'est un des deux frères. Il y avait aussi Coco Rosie, vous voyez, ces deux jeunes filles new-yorkaises qui ont joué il y a quelques années, qui doivent jouer encore, sans doute. Et puis toutes, sinon, venaient de ce livre d'Edgar Lee Masters, Spoon River, sans doute. On aura encore l'occasion d'y revenir. C'était Marco Compte à rebours, et je vous dis à la semaine prochaine. Oh.